J'aimerais, au début de ce culte, vous souhaiter à chacun vraiment un joyeux Noël. Que vous soyez bénis dans ce jour d'anniversaire, mais un jour spécial, c'est vrai, pour nous. Et nous voulons, ce matin, prendre beaucoup de temps pour lire ce qui nous est écrit dans la parole de Dieu sur la venue du Christ, chanter des chants de Noël, des bons vieux chants de Noël, j'ai envie de dire, retrouver peut-être les vieux chants qu'on avait l'habitude de chanter depuis tout petit, et partager un temps tout simple de lecture donc, et de la parole de Dieu et de chant ensemble. Puis il y aura aussi une petite surprise pendant ce culte. Alors je vous invite à commencer tout de suite avec ce chant « Voici Noël ». En route, il manque un petit bout, hein, vous avez vu. J'aimerais lire avec vous le début du psaume 34. Psaume de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifie avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons ce matin ensemble élever nos voix vers toi, élever nos cœurs vers toi. C'est pour nous Noël. Nous célébrons ta venue dans ce petit enfant, dans la crèche. Et nous voulons, Seigneur, ensemble ce matin te rendre gloire parce que tu es venu, parce que tu es venu parmi nous, justement. Et nous voulons ce matin nous rappeler de la raison de ta venue sur la terre pour nous permettre de nous réconcilier avec notre Dieu, avec notre Créateur. Nous voulons t'apporter notre louange, notre adoration, te louer parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous chantons un deuxième chant, « Tu es venu jusqu'à nous ». Thank you. Qui est-ce qui ne savait pas que c'était Noël aujourd'hui? Tout le monde ici savait que c'était Noël aujourd'hui. J'étais frappé d'entendre à la radio annoncer de cette façon-là, pour les chrétiens, c'est Noël. Pour les chrétiens, c'est Noël. Ils donnaient le chiffre de 4 milliards de chrétiens, donc qui reconnaissent la venue du Christ à Noël, mais ce n'est pas l'ensemble de la Terre. C'est important de se le rappeler aussi qu'il y a des personnes pour qui ça n'est pas Noël ce matin. Et nous, on veut célébrer cette venue justement du Christ en reconnaissant qu'il est venu à ce moment-là sur la terre. Et on veut vraiment témoigner que pour nous, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui a un sens, qui a un sens au-delà de ce petit enfant ou de toute cette fête. Et vous avez vu que de plus en plus, la fête de Noël et la fête du 1er janvier se confondent en fête de fin d'année. Et en fait, on se rend compte que souvent, maintenant, dans le monde, le temps de Noël, c'est le temps pour la fin de l'année, et le 1er janvier, c'est le temps pour le début de la nouvelle année. Et avec ça, on occulte complètement l'idée de Noël, et on pense uniquement aux fêtes de fin d'année, avec Noël qui finit l'année, et le 1er janvier qui commence la nouvelle année. Alors c'est important pour nous chrétiens de nous différencier et de nous rappeler de ce Noël venu de Jésus, savoir qu'il est tout pour nous, c'est pour nous qu'il est venu, pour chacun de nous qu'il est venu sur la terre et qu'il a donné sa vie. Et donc c'est ce qu'on veut chanter, oui, il est tout pour moi. À lire ensemble dans l'Ancien Testament les textes qui nous annoncent très longtemps à l'avance, plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années à l'avance, la venue du Christ. Ces textes, ils vont s'afficher et je vais vous demander de les lire, mais on va les lire avec le micro parce que quand on enregistre le culte, au moins ils apparaîtront aussi. Alors, qui est-ce qui veut lire ce premier texte de Michée, prophétie de Michée sur la venue du Christ? Qu'est-ce qui veut le lire?
Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre.
On se rend compte dans ce premier texte que ça va bien au-delà de cette simple venue de cet enfant dans cette crèche de Bethléem. Toute cette annonce qui était faite, ils auront une demeure assurée. Ça, c'est vraiment, vous voyez, on part d'un petit enfant qui n'a pas de demeure. pour arriver à nous avec une demeure assurée. C'est une des premières prophéties au sujet de la venue du Christ. La deuxième prophétie, c'est une prophétie qui est dans le livre de Malachie. On va lire juste un verset dans le livre de Malachie. Qui est-ce qui veut le lire? Les enfants peuvent lire aussi. Hein.
Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
Nous allons enchaîner directement avec un chant où vient bientôt Emmanuel. Pas envoyer son fils n'importe où et n'importe comment sur la terre. Il a annoncé à ses parents, à Joseph et à Marie, il l'a annoncé indépendamment à l'un et à l'autre. Et c'est ces deux passages que nous voulons lire maintenant. Dans Matthieu d'abord, Matthieu 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme ils y pensaient, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Premier passage donc d'annonce à Joseph. J'ai lu cette semaine une réflexion sur le problème de Joseph, son problème de répudier sa femme, et toute une réflexion sur le fait que, oui, il avait pris cette décision jusqu'au moment où l'ange est intervenu et lui a parlé en disant non, c'est la volonté de Dieu. Et ça m'a interpellé dans le sens où je prends des fois des décisions, est-ce que c'est bien la volonté de Dieu, les décisions que je prends, est-ce que je me laisse interpeller? Et c'était quelque chose pour Joseph, certainement. On peut s'imaginer, on ne peut pas se mettre à sa place, mais on peut peut-être s'imaginer aussi le problème dans lequel il était. Et on veut lire le deuxième passage, qui est l'annonce faite à Marie, cette fois, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38.
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie. » car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Voilà deux passages qui sont importants pour nous aider à comprendre ce miracle de la venue du Christ parmi nous, le début de cette vie qui a apporté beaucoup de changements. Et vous avez noté dans les deux passages qu'on nous parle de ce nom qui est imposé, ce nom d'enfant qui est imposé. Vous l'appellerez Jésus. Et c'est ce que nous voulons vous chanter avec la chorale maintenant.
Thank you.
Nous continuons en lecture avec la réponse de Marie, le cantique de Marie, très beau cantique qu'on va trouver dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 46 à 55.
Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. »
La venue du Christ n'est pas un moment simplement posé comme ça, mais c'est un moment inscrit dans l'histoire, inscrit dans notre histoire, dans l'histoire depuis longtemps. On l'a vu depuis Abraham, depuis la promesse aussi Abraham, faite à Abraham. Et c'est important que le peuple qui se reconnaît dans le Christ, de tout temps, puisse lui être reconnaissant et être fidèle à cette annonce, à cette venue, à cette croix plus tard et à l'espérance qui en vient ensuite. Et c'est ce que nous voulons chanter ensemble, peuple fidèle. Vous êtes une fois mis à la place de ces bergers dans leur champ qui ont tout d'un coup vu cette lumière, entendu ces voix. Il y a quelque chose de magique, quelque chose de d'incompréhensible, quelque chose qui est du domaine de, je sais pas, de presque de l'imaginaire, difficile à croire. Et de tout temps, des récits de Noël, des contes de Noël ont été dits, ont été faits, qui rappellent de façon différente comment est arrivé le Christ, qu'est-ce que ça a donné dans le cœur d'un tel ou d'un tel, comment une personne l'a comprise, ou des histoires qui nous rappellent au temps de Noël, autour de Noël, ce qui s'est passé d'une façon ou d'une autre. Et ce matin, on entendra un conte de Noël. Je cherche Zoé, je ne la vois pas, je ne la trouve pas. C'est Zoé qui nous donnera un conte de Noël ce matin pour tout le monde.
C'est une histoire qui se passe il y a très longtemps dans un village en Provence. Vous savez, un de ces villages qui semble comme accroché à la montagne quand on le voit depuis en passant par la route ou comme ça. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, mais si on passait avec un cheval, on pouvait voir ça. Et puis, tout en haut du village, il y avait un château. Et encore plus haut, il y avait une église. Et puis, dans ce village, c'était un peu bizarre. Ils faisaient pas bon. Ils décoraient pas, évidemment, à l'époque, les rues, parce qu'ils n'avaient pas l'électricité, donc ils ne pouvaient pas faire des décorations de Noël comme on fait maintenant. Mais ils ne faisaient pas non plus de crèche. Pas de crèche vivante, pas de crèche normale non plus. La seule chose qu'ils faisaient, c'est que dans l'église, il y avait une magnifique peinture qui représentait la scène de la nativité. Et puis, ils enlevaient tout ce qu'il y avait dedans. Ils dégageaient une immense place. Et puis, chacun venait déposer un présent, un cadeau, quelque chose, ce qu'ils avaient de beau, quelque chose qu'ils avaient de précieux à eux. De la même manière que les mages l'ont posé devant Jésus, ben eux, ils venaient et ils posaient devant cette scène de la nativité quelque chose. Et puis, à la fin, après Noël, ben tous les cadeaux servaient à être donnés aux plus défavorisés, ceux qui avaient encore moins qu'eux, pour que le Noël soit aussi pour eux un joyeux moment. Et puis, il y avait un homme dans ce village qui s'appelait Richard. Richard, on aurait pu croire qu'il était riche, mais non, pas du tout. Richard, il était très, très pauvre. Il habitait dans une maison qui était toute petite, mais enfin, c'était quand même une maison qui était fermée. Puis, il avait bon chaud, il pouvait faire du feu dans sa maison. Et puis, son métier à Richard, c'était d'être bouffon. C'était le bouffon du seigneur du château. Son travail, c'était de l'amuser, de le distraire, de le faire rire, de lui faire des jongleries ou d'autres choses comme ça. Et puis, il était quand même assez doué dans son travail, Richard. Tellement qu'une fois, son seigneur avait été tellement content de lui qu'il lui avait jeté comme ça un bouton en or. Et Richard, il avait récupéré le bouton en or, il l'avait cousu sur sa tenue, et puis, waouh, ça étincelait, ça brillait. C'est ça qui donnait tout l'éclat à sa tenue. Et Richard, il était très, très, très fier de ce bouton. Et puis, ben, il était un petit peu travaillé quand même par tous ces cadeaux que les gens faisaient. Et puis, il s'est dit, ben, moi, cette année, je vais donner mon bouton en or. Et puis, il s'est dit, ah, je vais attendre encore un petit peu, je vais le garder quelques jours sur moi. Ça. Et puis, il était chez lui un jour, puis il y rêvassait, il s'imaginait donner son bouton en or, et puis que tout le monde le voit, que tout le monde l'applaudisse. Waouh, Richard, il a fait un super cadeau. Puis, à ce moment-là, il entend, ah, quelqu'un qui frappe à la porte. Il va ouvrir. Ah, c'est Alix. Alix, c'est la fille de sa voisine. Sa voisine Jeanne, elle n'a pas eu de chance. Elle est seule, elle est veuve, elle a 3 enfants. Et puis, elle a vraiment presque rien. Et puis, il dit, qu'est-ce qu'elle veut, Alix ? Entre, Alix. Il ouvre la porte, la fait rentrer. Puis, Alix, elle regarde Richard et elle se met à pleurer. Et Richard, il n'a pas besoin de lui demander pourquoi elle pleure, il le sait très bien. Parce qu'il sait que Jeanne, elle n'a pas payé depuis plusieurs mois le loyer de la maison et qu'à la fin du mois, eh ben, si elle n'a toujours pas payé tout ce qu'elle devait, ils allaient se retrouver dehors. En plus, Alix, elle lui fait de la peine parce qu'elle a froid. Il fait froid quand même en Provence, faut pas croire, au mois de décembre. Et puis, elle a des vêtements d'été, elle n'est pas habillée. Et puis, il le fait rentrer, il lui dit, entre Alix, viens t'asseoir. Viens au bord du feu, viens t'asseoir un moment, tu te réchauffes. Et puis, t'inquiète pas, je sais ce qui te tourmente, je vais trouver une solution. Il reste là, attends-moi. Et confiance en moi. Puis Richard, il sort. Il va voir un riche marchand, puis il lui dit, tiens, je te vends mon bouton en or. Puis il est quand même content parce qu'il en a obtenu un bon prix. Il revient avec Alix, puis il dit, Alix, voilà, viens maintenant, viens, on va chez toi. Puis il lui met une vieille couverture comme ça sur les épaules pour pas qu'elle ait froid. Puis il l'emmène, il la prend par l'épaule, il lui dit, viens, viens, on va chez toi. Puis il l'emmène, et puis il donne à Jeanne tous les sous de son bouton. Il la regarde, il dit, non, 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 Jeanne, tu prends, tu dis rien, je veux rien entendre, tu prends ces sous. La seule chose que je veux pas, c'est que je veux plus voir ni Alix, ni aucun de tes enfants avoir froid et être habillé avec des vêtements d'été en plein hiver. Et puis il sort, Il veut rentrer chez lui, puis il se dit « Oh, je vais marcher un peu ». Puis il se promène dans le village et puis il monte jusque tout en haut, sans vraiment faire exprès. Il se retrouve devant l'église. Et il rentre dans l'église et il voit cet immense tas de cadeaux et puis il se dit « Ben moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien à offrir. Je pourrais rien offrir à Jésus cette année. » Et puis il se met à pleurer. Et puis tout d'un coup, à travers un vitrail, il y a une lumière, un rayon de soleil qui arrive et qui éclaire cette scène de la nativité. Et Richard, il se dit, mais finalement, ce rayon de soleil qui arrive sur le visage de Jésus, il donne un éclat à Jésus, même éclat que mon bouton il avait sur ma tunique. Et puis tout d'un coup, il est un peu plus attentif et il remarque qu'un petit détail qu'il n'avait jamais vu, il remarque que l'index de Jésus, il montre légèrement dans une direction. Il regarde dans cette direction et il voit qu'il y a des textes. Il y a un texte particulièrement sur les murs de l'église. Il le lit. C'est un beau texte et il le redécouvre un peu. « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Merci Zoé pour ce magnifique conte de Noël. C'est ce qu'a fait Jésus en venant, il l'a fait au plus petit, c'est-à-dire à nous, à chacun de nous. Et c'est ce que nous voulons chanter maintenant, il est né, le divin enfant. C'est lui qui est Dieu, et c'est nous qui sommes les plus petits, et pourtant c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Il est né, le divin enfant. Les textes qui nous annoncent dans la Bible comment est né Jésus. Dans Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. Je ne sais pas où est le micro. Voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. C'est très bien. Il y a encore un autre texte après. C'est bon.
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Merci. On a encore un dernier texte à lire.
Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et suffit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
Dans tous ces récits, nous avons à la fois les bergers à qui on dit « n'ayez pas peur » et qui sont remplis de joie finalement et qui descendent. Et ces mages qui viennent aussi, et nous l'avons lu, ils sont remplis d'une grande joie, ils crient « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu ». C'est ce que nous voulons chanter. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant aussi. Les anges dans nos campagnes, Glory Alléluia, ce chant qui est très connu aussi. Je vous invite à chanter vraiment de tout votre cœur. Récits qu'on peut trouver dans la Bible qui concernent l'arrivée du Christ. Et vous avez vu que beaucoup de ces récits ne s'arrêtent pas à la venue du Christ au moment de Noël, mais se projettent déjà sur l'avenir, sur le but de sa venue, sur son sacrifice à la croix et sur sa mort pour nos péchés, pour nous racheter et nous réconcilier avec Dieu. Et nous voulons, en ce jour de Noël aussi, nous rappeler de cette venue, bien sûr, mais de pourquoi. De ce que son temps sur la terre a duré un peu plus de 30 ans, simplement, mais qu'il est venu accomplir l'œuvre de Dieu pour nous. Et c'est ce que nous voulons partager dans ce repas de la scène. Tu peux mettre le texte maintenant d'Ésaïe, Rémi, s'il te plaît. Ce texte d'Ésaïe, que nous voulons lire ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ce sont les passages qu'on a lus, qui nous étaient annoncés. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà l'accomplissement des prophéties jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à la vie du Christ, jusqu'à la mort du Christ et jusqu'à la résurrection du Christ ensuite. Et nous voulons partager ce temps de scène ensemble. Je demanderai à deux personnes, je crois peut-être Emmanuel, puis Emmanuel et Rebecca, vous êtes l'un côté de l'autre.
Oui, souvent.
Ça tombe bien. Notre Dieu, nous voulons ajouter nos prières, notre louange, notre action de grâce à toutes les prières qui monteront vers toi ce matin, pour tous ceux qui reconnaissent ta venue, ton arrivée, qui la célèbrent ce matin, partout sur la surface de la terre, Seigneur. Faire monter vers toi un chant comme ceux qui ont été entendus cette nuit-là. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour ta venue parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu es venu pour nous, pour chacun de nous. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques annonces. Cette semaine, il n'y a pas d'activité à l'église. Je crois qu'on est aussi pas mal chargé. Ça fait du bien aussi de souffler. Il n'y a pas d'activité, sinon quelque chose le 31. Le 31 décembre, on a l'habitude de se retrouver dans une famille. Cette année, ça sera chez Anne-Lise. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est inscrit sur le panneau. Au fond, c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est tout seul. Peut-être, on espère. En tout cas, si vous êtes tout seul, si vous avez envie de partager la soirée chez Anne-Lise, vous appelez Anne-Lise directement, mais ça serait bien de le faire d'ici mardi. Parce qu'elle a un problème de table à rentrer, je crois, Annelise, d'ici mardi. C'est-à-dire, si vous voulez être assis, il faudra appeler avant mardi. Donc, assis autour d'une table. Donc, contactez Annelise d'ici mardi, et puis vous passerez un moment sympa chez Annelise. On se réjouit, en tout cas, Annelise aussi, pour ce temps que vous pouvez passer à plusieurs ce soir-là. Dimanche prochain, notre culte. Je vous rappelle le culte aussi du 8 janvier. C'est le culte dans 15 jours, mais c'est un culte de baptême. Un culte important où on aura 4 baptêmes. Donc, on se réjouit de ce temps de baptême aussi. Pensons à aux personnes qui sont fatiguées, qui sont souffrantes, qui sont malades. On va continuer à penser à Freddy aussi, penser pour son rétablissement, qu'il puisse aussi se remettre le mieux possible et que Dieu le bénisse aussi, le garde. Et puis je vais, j'ai encore deux annonces, je vais laisser d'abord la parole à Philippe.
Alors on peut tout particulièrement penser à Madeleine cette semaine, qui va se faire opérer pour poser une prothèse du genou. Donc, Madeleine va rentrer mercredi à la clinique vers Annecy, la clinique d'Argonnet, et elle sera opérée jeudi. Donc, pensons vraiment à elle, et je vous invite même à prier pour elle maintenant tout de suite. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons te remettre Madeleine afin que tu la gardes, que tu gardes cette opération, que tu sois particulièrement avec la main du chirurgien, avec l'équipe qui va s'occuper d'elle. Nous voulons te la remettre aussi afin que tu la gardes dans ta paix, que tu la bénisses et vraiment que ce soit un moment sous ton regard. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Voilà, j'ai encore laissé la parole à Christiane qui a aussi une annonce à partager avec nous.
Bonjour, mesdames, pensez-vous qu'il soit possible de se faire du bien moralement, physiquement et spirituellement en même temps? Oui. Eh bien, pour celles qui ont envie de tester, je vous invite à une journée féminine. J'ai mis des dépliants au fond, prenez-les, il faut vous inscrire à l'avance. C'est une journée rien que pour vous. Et je peux vous dire que pour celles qui étaient présentes l'année passée, c'est vraiment, vraiment une journée pour se faire du bien. Et maintenant, un petit mot pour les messieurs. Encouragez vos épouses à y aller, parce que vous avez tout à y gagner.
Ça, c'est clair. Hein, on n'a pas d'autres annonces à partager. Alors, je vous invite à vous lever et on lira encore relire ces quelques versets de Luc que nous avons lus ce matin par rapport à cette annonce dans Luc 2, les versets 12 et suivants. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté ». Que ce soit pour nous le message de Noël, et j'aimerais vous souhaiter vraiment un joyeux, joyeux Noël à chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.